Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une invitée pour une nouvelle interview. Et puis cette interview, ça fait longtemps que j'essaie de la faire, mais comme c'est une femme qui voyage beaucoup, à la base on voulait le faire vraiment à Lausanne, puis finalement on a renoncé, donc on fait ça sur Skype. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Fanny Vicky, qui est une business coach, brand designer, auteure du livre Design ta vie de rêve, pardon, et qui m'avait invité aussi sur son podcast il y a plusieurs mois, voire années. Donc évidemment, je mettrai aussi les liens vers son podcast à la fin, dans les notes de la vidéo et du podcast. Fanny, merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
Merci à toi pour l'accueil.
Avec plaisir. Et puis, je voulais, comme la tradition le veut, te proposer de te présenter en disant quelque chose que peu de gens connaissent sur toi.
La question piège directe pour commencer. C'est pas facile de trouver un truc que... Je partage tellement de choses sur les réseaux sociaux. Mais je pense que quelque chose que peu de gens savent sur moi, et qui est intéressant de savoir surtout, c'est que je suis entrepreneur, mais introvertie surtout. Et ça, je pense que c'est important de le dire, d'en parler, parce que beaucoup pensent qu'on peut être entrepreneur que si on est extraverti, que si on sait parler fort, qu'on sait négocier durement et tout ça. Et je pense que non, il y a d'autres moyens. Et donc, j'ai peut-être envie de partager que je suis introvertie, même si beaucoup de gens ne me croient pas quand je le dis.
Je trouve intéressant. On va creuser aussi ça peut-être après, un peu plus loin dans l'interview. Mais en effet, malheureusement, on a tendance à valoriser vraiment énormément le côté extraverti, puis à avoir l'introversion comme quelque chose de négatif, comme un défaut, comme quelque chose dont on doit sortir, alors que non, pas du tout. C'est juste une différence dans comment on se ressource. Les introvertis vont plus se ressourcer seuls, dans des activités plus calmes, etc. Alors peut-être les personnes extraverties seront beaucoup plus dans « je me ressource dans le social, dans beaucoup d'activités, etc. » Et donc, je trouve cool justement d'avoir ton exemple qui est entrepreneur, qui est indépendante, qui est quelque chose souvent qu'on attribue à des personnes qui seraient extraverties. Donc, je trouve ça top. Et sauf erreur, il me semble que tu es devenue indépendante un peu malgré toi. C'est juste.
Vrai.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment les choses se sont passées?
Oui. Effectivement, c'était, alors malgré moi, c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas, c'était pas du tout quelque chose que j'avais dans la tête. Dans ma famille, à la base, il y avait personne qui était entrepreneur. Mes parents sont les deux à l'État, donc des jobs super, super stables. Moi, je m'étais lancée dans des études avec bachelor, puis master, tout ça. Et même dans ma tête, j'avais toujours cette idée que j'allais avoir un job classique. C'est pas quelque chose que j'avais dans la tête depuis toute petite de me dire ouais, moi je lancerai mes projets ou j'aurai mon propre business. Vraiment, ça a jamais été une question pour moi, une possibilité que j'avais imaginée avant que ça me tombe dessus un peu par hasard quand j'ai eu quelqu'un qui est venu vers moi pour la création d'un site internet. Et en fait, cette personne est devenue mon premier client, mais je crois que je l'ai réalisé qu'après presque avoir signé le contrat que j'étais en train de lancer mon business et avoir un client. Et puis après, un deuxième qui m'a demandé d'enregistrer mon entreprise parce que c'était un client plus grand qui avait besoin d'avoir les papiers, etc., tout bien en ordre. Donc en fait, je me suis lancée comme ça sans vraiment réaliser. Mais ce qui est drôle, je trouve, c'est que quand je réfléchis à mon parcours avant, il y avait quand même des signes qui étaient là. J'avais créé un projet. Première fois que j'ai gagné de l'argent, c'était avec un projet entrepreneurial, entre guillemets, où j'ai créé un journal que j'ai revendu à toute ma famille, etc. Après, j'avais créé une petite marque de bijoux. Enfin, il y avait plein de signes qui étaient là, mais que je n'avais pas vu du tout et que j'ai connecté que... qu'après, en fait, des années plus tard, en faisant un exercice qui s'appelle la timeline de ma vie, où j'ai réfléchi vraiment à tous les grands événements, toutes les choses que j'avais faites, que là, je me suis dit, ah, mais en fait, les signes étaient là, mais je ne les avais pas du tout, du tout vus.
C'était à quel âge que tu avais lancé justement ce journal ou ces bijoux?
Le journal, je crois que j'avais 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça, et les bijoux, j'avais lancé à 16 ou 17 ans.
Ok, ouais. Je trouve intéressant, c'est souvent, c'est vrai, chez des personnes qui lancent après leur business, il y a des histoires comme ça de petits, on ne peut pas appeler ça des business, mais de création de choses et de petits revenus, même des fois très tôt. Hein. Moi, j'ai pu vivre ça aussi quand j'étais petit. J'ai eu plein de mini-activités comme ça, où je crée des choses, je les vendais, etc. Et c'est marrant, j'ai vu la semaine passée, j'ai vu un de mes filleuls qui a 6 ans. Et j'ai eu un peu la première conversation comme ça avec lui, parce qu'il voulait s'acheter des Lego. Enfin, il voulait s'en acheter ou il voulait que je lui en achète, un peu des deux. Et puis, on essaie de lui faire comprendre que le Lego, qui a un prix de fou, on essaie de lui faire comprendre combien de temps il devrait attendre s'il comptait sur son argent de poche. Puis après, on a commencé à avoir une discussion sur comment, quel type de business il pourrait lancer pour accélérer le processus. Et puis ça me fait rire ton histoire de journal parce que son idée principale, c'était de faire des tartines et puis de les vendre à sa maman. Donc voilà, peut-être que...
C'est pas mal.
Peut-être que Exactement. Peut-être qu'on a lancé une future carrière de businessman, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai reparcouru ton site et il y a plein de termes qui étaient un peu obscurs pour moi, mais que je trouve intéressant qu'on creuse en fait. Tu parles notamment dans ton activité que tu fais du business et du lifestyle design avec la méthode du design thinking. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça consiste?
Yes. Alors le design thinking, c'est une méthodologie d'innovation qui a été créée en Californie. Dans les années 70, je crois, ou 70, je suis en France, je suis adaptée, dans les années 70, il me semble que c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment de remettre l'humain au centre des préoccupations et des idées parce que petit à petit, en innovation, la technologie est devenue un peu le cœur du truc. Et on a commencé à innover pour innover où on sortait des fonctionnalités qui n'étaient pas du tout intéressantes pour des humains finalement. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de gadgets, de fonctionnalités qui sont inutiles et pas intéressantes. Et donc cette méthodologie-là a été créée pour dire bah, on va arrêter d'innover pour innover, on va remettre l'humain au centre, on va regarder ce dont le client a vraiment besoin. Quelles sont ces vraies problématiques et comment est-ce qu'on peut régler cette problématique-là sans aller inventer un milliard de trucs autour. Donc ça, c'est vraiment la base de cette méthode du design thinking que j'ai appris à San Francisco d'ailleurs et avec laquelle j'ai travaillé en tant que consultante pour des grandes marques, des grands groupes bancaires, etc., pour affiner après leurs processus, leurs produits. On peut vraiment innover sur plein de choses avec cette méthode et c'est cette méthode-là que j'ai pris comme base pour ensuite aller creuser dans tout ce qui est business design et lifestyle design. Donc, c'est vraiment la même base. On reprend le côté humain au centre et on va aller créer des business avec l'humain au centre, créer des vies avec l'humain au centre. Et donc, le lifestyle design, c'est cette idée de pas juste vivre sa vie comme elle vient, mais vraiment de dire, ben, en fait, ma vie, c'est le business le plus important que je vais créer ici sur cette planète. Et j'en ai qu'une. Et donc, il ne faut pas que je me plante. Il ne faut pas que je me laisse trop aller. Il ne faut pas que j'attende que les choses viennent à moi. Mais vraiment que je prenne les choses en main et que je me remette au centre de ma vie et que je me demande ben, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quels objectifs j'ai envie d'atteindre, quelle personne j'ai envie de devenir, quelles qualités j'ai envie d'avoir, comment est-ce que je peux les développer, etc. Donc, le lifestyle design va vraiment être axé sur comment est-ce que je peux, avec intention, designer ma vie. Et le business design, bah, comment est-ce que je peux, avec intention, remettre l'humain au centre et designer un business qui vraiment me plaise.
Et donc, aujourd'hui, ça, tu utilises ces outils toujours avec des entreprises comme dans du coaching plus personnel avec des individus?
Exactement. Donc, je vais faire encore un petit peu de consulting avec des grandes entreprises et après, je l'applique avec des plus petites entreprises ou même des particuliers. J'ai vraiment la majorité de mes clients, c'est des clientes privées qui veulent monter leur entreprise. Et donc, on va appliquer cette méthode où je mixe et le lifestyle design et le business design parce que c'est super important pour moi de créer des business qui soient bien sûr rentables, bien sûr intéressants et tout ça, mais alignés aussi au style de vie idéal de mes clientes.
Donc ça, il y a toujours un lien avec la vie professionnelle. Tu ne fais pas de coaching lifestyle design que, je sais pas, centré sur la personne elle-même sans une activité indépendante ou comme ça.
Non, ça fait toujours. Moi, je coach toujours soit des femmes qui veulent devenir entrepreneurs, soit des femmes qui le sont déjà. Et on aligne vie idéale, vie de rêve avec le business. Je n'ai jamais fait, mais je pourrais imaginer potentiellement de le faire. Mais ce n'est pas quelque chose que je propose pour l'instant de faire que du coaching de vie.
D'accord. Oui, puis c'est, ben justement, je pense que tu as aussi tes compétences, elles se retrouvent très, très bien en mixant ces deux. Et, alors, ça ne veut pas dire que tu ne pourrais pas accompagner très bien des personnes en coaching de vie, mais quelque part, tu mettrais de côté beaucoup de tes compétences en création de business, en communication, etc.
Oui, exactement.
Qui sont du coup aussi des choses que beaucoup de coachs de vie n'ont pas dans leur bagage.
Oui, je pense que c'est ça qui fait mon avantage ou ma différence aujourd'hui. Mais c'est très drôle parce que c'est quelque chose qu'on m'a reproché pendant très longtemps. D'avoir trop d'intérêt et sur le dev perso et sur même la psychologie et sur le business et sur la création. Et mes profs m'ont souvent dit que j'allais dans toute la direction et que ça allait pas le faire et que je pourrais rien faire de ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. C'est justement d'avoir tous ces angles d'attaque et de pouvoir proposer de manière assez unique cet accompagnement qui est... coaching de vie et coaching business en même temps et aussi potentiellement design.
Parce que ça, du coup, c'était des profs qui te disaient ce genre de remarques?
J'ai eu beaucoup, ouais, parce que déjà, en fait, en faisant mon bac, j'avais comme option art visuel et économie et droit. Et j'étais la seule de l'école à avoir ça. Et tout le monde trouvait ça super étrange. Donc, j'avais beaucoup de profs qui me disaient que j'allais rien pouvoir faire de ma vie parce que j'avais pas de spécialisation et que j'avais trop de trucs et pas vraiment de trucs en même temps. Et après, j'ai fait un bachelor en direction artistique et un master, enfin un MBA en business. Donc, de nouveau, c'est deux trucs qui n'avaient rien à voir. Donc, très souvent, ouais, on m'a dit que ça avait aucune logique et que ce que je faisais n'aboutirait à rien finalement.
Alors que 10 ans plus tard, quand on est en reconversion, on nous dit il faut vous réinventer et puis trouver les autres opportunités.
C'est ça.
Je trouve ça fou à quel point dans le monde de l'éducation, qu'elle soit primaire, secondaire ou supérieure, on continue à propager des croyances aussi limitantes. Parce que ouais, c'est toujours c'est une doctrine que ces personnes ont qui a peut-être fonctionné pour elles, mais c'est dommage parce que combien de personnes, tu vois, écoutent ce genre de choses et en fait avortent leur projet ou abandonnent une passion, un truc qui les porte. Donc bravo d'avoir. Alors je te félicite. Puis peut-être comment est-ce que tu as fait pour maintenir et maintenir ta voix et puis pas écouter ça.
Au début, je pense que c'était par pas par choix parce que en fait, je savais pas quoi faire d'autre. C'était des trucs qui me plaisaient et je me voyais pas faire d'autres options. J'aurais pas su quoi mettre à la place. Donc voilà, je me serais pas vue faire espagnol à la place de économie et droit. Donc vraiment, j'ai suivi ce qui me plaisait, mais sans un vrai plan derrière. Et c'est après, petit à petit, que j'ai commencé à travailler. J'ai monté mon business, donc j'ai commencé à travailler sur la vision de cette entreprise, la vision que j'avais pour ma vie, avec des outils de lifestyle design justement. Okay. Et que j'ai commencé à dire, à voir le marché et tout ça, que j'ai commencé à créer un petit peu mon plan. Et quand je me suis inscrite en MBA business, là, je savais que c'était étrange comme mouvement, enfin comme décision. Mais j'avais mon plan en tête. Pour le coup, cette fois-ci, je savais que je voulais ajouter plus de business à mes accompagnements, que j'avais envie d'avoir cette couche plus rationnelle versus que du design ou que de la créativité. Donc vraiment, en travaillant beaucoup sur ma vision, ce que j'ai envie de vivre, c'est là que j'ai pu développer ça avec plus de confiance.
Je reviens sur ce que tu as dit avant, quand tu parlais du lifestyle design, tu disais ben, c'est important, pas juste de construire une activité professionnelle, mais voilà, que ça s'insère en fait dans un tout qui soit harmonieux. Et puis, ben, je pense que tu as un joli exemple de ça. C'est aussi la raison pour laquelle ça me plaisait de t'inviter sur le podcast. C'est que ben, tu vis, je pense, le rêve numéro un de notre génération. Enfin, moi, c'est ce que je constate en consultation, c'est quelque chose qui revient toujours, c'est le fait de pouvoir être ce qu'on appelle une digital nomade, c'est-à-dire pouvoir avoir une activité professionnelle où on peut voyager, où on peut en fait, bosser depuis n'importe où. Et puis toi, bah, tu es arrivé à avoir ce style de vie où bah, tu passes ton temps sur des plages et puis à faire du surf durant tes pauses entre deux coachings. Comment est-ce que toi ça t'est venu cette envie et puis comment est-ce que tu as fait pour la réaliser? Parce que c'est le rêve de beaucoup de gens, mais très très peu de gens arrivent à le faire finalement.
L'envie, comment elle m'est venue? J'ai toujours aimé voyager. Et j'ai toujours aussi eu une énergie qui est très, comment dire, fluctuante ou incertaine, on va dire. Et donc, cette liberté dans mon business de pouvoir bouger, être bien, pouvoir faire du sport, pouvoir aussi avoir mes horaires, c'était quelque chose de très important pour moi pour être au top. Et je sais que j'ai fait quelques mois dans des bureaux où je devais y être à 8h30 et je rentrais tard le soir et tout ça. Et c'était vraiment les pires mois de ma vie. Je n'arrivais plus à me lever au bout de 3 semaines. Je n'arrivais plus à me lever, quoi. C'était trop dur et c'était vraiment galère. Et donc, je pense que là, j'ai compris que ça n'allait pas le faire, le côté bureau. Donc ouais, ça s'est fait petit à petit aussi, toujours dans cette idée de développer ma vision et au fur et à mesure que j'ai appris à me connaître. C'était pas dès le début que je voulais forcément être digital nomade. Au début, je voulais, j'étais déjà contente d'avoir mon business, j'étais contente de voir que je pouvais gagner ma vie en faisant un truc qui me plaisait, parce que c'était pas dans ma tête quelque chose d'acquis. Donc il y a eu ça, et après petit à petit le côté digital nomade est venu. Et il est aussi venu, pas par hasard, j'ai dû prendre des décisions qui étaient difficiles à certains moments, parce que j'avais des super clients vraiment très très cool qui me ramenaient quand même une bonne partie de mon chiffre d'affaires, qui me demandaient d'être en présentiel, notamment à Lausanne ou ailleurs. Et j'ai dû avoir le courage à des moments donnés de dire à ces clients, ben, je vous adore, j'aime bien le travail qu'on fait ensemble, mais si vous voulez que je vienne en présentiel, ben, je ne vais pas pouvoir le faire parce que mon style de vie est plus important et que j'ai envie de pouvoir voyager, etc. Donc ça ne s'est pas fait. Il y a une partie qui s'est fait naturellement, parce que quand tu travailles en ligne à créer des sites internet, coacher, ça tu peux le faire en ligne, mais il y a une partie de mes clients qui étaient au début quand même des clients présentiels où je donnais des cours ou d'autres workshops ou des choses comme ça, à qui j'ai dû avoir le courage de dire au revoir et avoir confiance que j'allais trouver d'autres clients. Donc je pense qu'il faut quand même pas faire croire que c'est super facile et que n'importe qui peut devenir digital comme ça, digital nomade du jour au lendemain, et que c'est super super facile. Il faut quand même avoir le courage de temps en temps de dire non à des opportunités qui auraient pu être des opportunités géniales ou qui l'étaient jusqu'à maintenant, pour faire confiance dans la vision qu'on a de notre vie idéale.
Oui, puis ça, c'est quelque chose qui est, en effet, c'est top que tu le soulignes, parce que c'est quelque chose que je constate beaucoup, des personnes qui se lancent dans l'indépendance. Puis généralement, la première chose qu'on veut, ben, c'est justement de la liberté, de la flexibilité, et qui finalement, en fait, s'enferment dans un truc où ils sont dépendants de 1, 2, 3 clients. Et finalement, ça devient juste des salariés, mais avec un moins bon statut. Et donc, c'est important, en effet, des fois, de devoir prendre des décisions qui ne sont pas évidentes, parce qu'évidemment, il y a la peur de, voilà, comment je fais pour dire non à cette partie de revenu? Est-ce que je vais trouver d'autres clients? Mais ben, heureusement, elle a payé pour toi. Quels sont justement les pour et les contre de cette vie de digital nomade qu'on a tendance à romantiser beaucoup?
Ouais, je pense que c'est important de parler de tous les côtés parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de lifestyle parfait. Il y a autant de styles de vie que de personnes. Et je trouve qu'en ce moment, on parle beaucoup, comme tu dis, du digital nomadisme comme le lifestyle parfait, le lifestyle de rêve qui pourrait aller à tout le monde. Je ne pense pas que c'est le cas. Parce que y a plein de côtés positifs. Le côté, si tu as froid, tu vas dans un climat chaud. Tu peux aller habiter au bord de la mer si ça te plaît. Tu peux te balader en suivant les saisons, en suivant tes envies, en suivant... moi, je fais beaucoup de surf, donc en suivant les conditions de surf. Il y a plein d'avantages à ça. Tu peux rencontrer plein de gens super inspirants aussi. Là, j'ai passé presque 2 mois à Bali, fin 2023, où j'ai rencontré plein de gens super inspirants et c'est motivant aussi de voir cette énergie-là. Donc, tu peux aller vivre dans des endroits comme ça qui sont très inspirants, avoir une énorme liberté suivant comment tu t'es organisé aussi. Moi, j'ai fait attention à ça, d'avoir énormément de liberté sur les horaires. Donc, je travaille souvent des demi-jours, mais je vais travailler toute la semaine, le week-end compris, mais en demi-journée. Donc ça, je pense que c'est les points positifs. Tu peux vraiment t'organiser d'une manière très, très flexible. Tu visites plein d'endroits, tu as plein de gens inspirants, tu vas voir des paysages très différents. Par contre, dans les côtés négatifs, il faut beaucoup de discipline parce que si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu as vite fait d'être happé par tous les gens inspirants, les endroits, les trucs cool que tu peux faire, surfer tous les jours, tout le temps. Et surtout, si tu n'es pas longtemps à un même endroit, y a plein de choses que tu as envie de faire. Donc, il faut avoir la discipline de se dire, non, là, il faut que j'avance. Et encore plus quand c'est ton business et qu'il n'y a personne qui vient te chercher, à part peut-être tes clients, mais quand tu montes des projets, etc. Là, je suis en train de créer une formation. Ma formation, il n'y a personne qui viendra me botter les fesses dessus si je n'avance pas. Et dans 3 ans, elle pourra toujours ne pas être sortie. Donc, il faut cette discipline d'arriver à dire, OK, il y a plein de trucs cool à faire. Mais je bosse quelques heures quand même. Et ce que je suis en train de voir après 4 ans de digital nomadisme, c'est le manque de routine aussi. Les routines, c'est super, super, super puissant. Quand tu fais tous les jours la même chose, beaucoup de gens le voient comme quelque chose d'ennuyeux. Mais en fait, ça a une force énorme de savoir exactement ce que tu vas faire, de savoir où tu vas être, de savoir quels sont les horaires, de savoir où est-ce que tu travailles. De savoir quand est-ce que tu vas au sport, où est-ce que tu vas au sport. Tout ça, c'est des habitudes qui rendent aller au sport beaucoup plus facile, se mettre au travail beaucoup plus facile. Et c'est des choses que tu n'as pas quand tu es digital nomade et que tu changes de lieu toutes les semaines ou même tous les 2 mois, comme j'ai fait là à Bali. Tu vas te recréer ta nouvelle routine et le temps qu'elle soit ancrée, tu es de nouveau dans un nouvel endroit et tu dois recréer ça. Donc, ça demande de l'énergie mentale, c'est une charge mentale aussi, que de se recréer une routine et d'opérer avec moins de routine que la plupart des gens aussi.
C'est hyper intéressant que tu soulignes ça aussi. Je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais j'aurai un... Enfin, je pense que quand l'épisode-là sortira, peut-être qu'il le sera déjà, peu importe. J'ai enregistré un épisode de podcast justement sur les bienfaits de la routine. Et puis le problème, c'est souvent pas la routine, mais c'est... notre routine, en fait. Le but, ce n'est pas d'éliminer la routine de notre vie, mais c'est de chercher à améliorer, en fait, la routine qu'on a. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très rassurant, très structurant, de savoir exactement, voilà, comme tu dis, où est-ce que je vais faire mon sport, où est-ce qu'il y a un supermarché, le supermarché, enfin, rien que même chez nous, et tous les 2 mois, ils changent des arrangements dans les supermarchés, c'est une catastrophe. Donc c'est vrai que ça, c'est un point qui est important. Peut-être, qu'est-ce que tu conseillerais, à part peut-être venir te voir pour un coaching, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaiterait tenter cette expérience du digital nomade? Quels seraient les premiers pas?
Je pense que je conseillerais de tester pour voir si ça plaît, parce que vu que c'est un style de vie qui est très, très mis en avant, très vendu comme le truc. Si la personne a la possibilité de tester, pas sur ses vacances, parce que ce sera jamais la même chose, et je conseille jamais à personne de prendre son ordinateur pendant les vacances et de s'appeler Digital Nomade, parce que c'est pas du tout ça pour moi. Gardez vos semaines de vacances, ne prenez pas votre ordi et ne faites pas genre vous êtes Digital Nomade sur une semaine, ce serait trop dommage. Mais si les gens ont la possibilité de partir 3 semaines, par exemple, et de dire bah, vraiment là, je ne pars pas en vacances, mais je me crée une routine de travail, je regarde ce qui se passe, comment je réagis, parce que ben, c'est aussi d'une partie d'apprendre à se connaître et de voir est-ce qu'on est capable d'avoir la discipline, est-ce qu'on est capable d'être déraciné, de sortir de notre routine, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour nous ou pas. Donc je pense que le seul moyen de savoir si c'est intéressant et que ça nous plaît, c'est de créer comme ça une mini-expérimentation et ça permet d'avoir une meilleure idée déjà.
C'est peut-être aussi ce dont parlait Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, alors qui commence à dater maintenant, mais qui est assez une référence dans l'entrepreneuriat, où il disait de prétexter à son boulot salarié de devoir partir pour un enterrement à l'étranger, puis de proposer de bosser un petit peu depuis l'étranger. Pour être plus efficace, enfin avoir des moins d'heures de présentéisme, faire le boulot qu'il faut plus rapidement et puis profiter le reste du temps. Alors ça, ça peut passer peut-être par des techniques un peu fourbes comme ça, mais en effet, du coup, tester, tu parles du déracinement, c'est vrai qu'il y a aussi le côté social. Alors même si tu rencontres beaucoup de monde, c'est pas anodin de partir loin de sa famille, de ses amis proches. Donc, c'est clair que c'est des choses à tester. OK. Et puis, aussi, pas hésiter à, j'imagine, écouter ton podcast ou te contacter pour voir ce que
oui,
c'est
après,
que de
j'en,
vivre.
Ouais, j'en parle souvent aussi, effectivement.
Je reviens sur le côté introverti. Je ne sais plus où est-ce que tu racontais ça, mais il me semble justement le fait de parler devant un public, de donner des formations, etc. C'est pas des choses... Alors, de toute façon, on ne naît pas avec ses compétences, mais c'est pas quelque chose avec lesquelles tu étais super à l'aise à la base. Et puis, aujourd'hui, tu es présente sur les réseaux sociaux, tu as un podcast, tu apparais sur des podcasts parmi les plus cotés de Suisse, notamment, vu qu'on fait l'interview aujourd'hui. tu donnes des formations, tu accompagnes des gens, etc. Ça a été quoi ton processus pour développer ces compétences?
Ouais, c'est sûr que pour moi, ce n'était pas gagné du tout parce que quand j'avais 12, 15 ans, même 17 ans et qu'il fallait faire une présentation à l'école, je ne dormais pas de la nuit le jour d'avant et je passais toujours en dernière. Mais ça, c'est la pire bêtise. Tu sais, quand tu dois te proposer et chaque fois, je disais non, pas moi. Et je passais toujours en dernière, ce qui faisait que des fois, je devais même passer le lendemain. Donc encore une nuit de plus, je ne dormais pas. Enfin bref, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'étais vraiment, vraiment... Ce n'était pas gagné pour moi d'oser parler en public. Il y a eu plusieurs étapes. Je pense qu'un des grands éléments déclencheurs, c'est d'être partie aux États-Unis. Où là-bas, en fait, déjà, ils ont une culture du public speaking, de parler en public, qui est très différente de la nôtre. Et aussi, ce qu'on ne dit pas, parce que souvent on dit oui, les Américains sont très forts pour faire des présentations, parler en public, etc. Ce qu'on oublie de dire là-dedans, c'est qu'eux, ils font des cours de public speaking depuis qu'ils ont genre 12 ou 15 ans. Et vraiment, chaque semaine, ils doivent présenter devant la classe et ils apprennent et ils ont un cours où ils font que apprendre à parler en public. Et ça, on n'en parle pas. Et moi, je ne savais pas du tout que ça existait. Et quand je suis allée faire un semestre aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de faire ce cours de public speaking. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'était mon père d'accueil qui le donnait. Donc, j'ai eu le petit push supplémentaire où il m'a motivée, il me connaissait un petit peu. Et du coup, il m'a motivée à prendre ce cours-là. C'était très, très, très dur au début pour moi parce que chaque semaine, tu te retrouves à faire ce que je détestais le plus, parler en public, en plus en anglais, devant des Américains. Mais c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et je pense que l'élément déclencheur, en fait, c'est de le faire beaucoup plus souvent et avec une méthode où on est sorti de notre zone de confort petit à petit. Et on avait des retours vraiment sur la manière de parler en public, des retours sur la manière de monter sur la scène, des retours sur la manière de projeter la voix, des retours sur la manière de bouger ses mains. Enfin, il y a vraiment eu sur chaque petit détail du feedback et vraiment des apprentissages aussi théoriques qu'on a jamais ici. Donc, je pense que pour être plus à l'aise, ça m'a vraiment aidée de le faire très souvent avec du feedback et aussi des apports théoriques. Donc ça a vraiment été le premier déclencheur. Et après, il y avait toujours chez moi un autre gros blocage, c'était de me filmer. Je ne sais pas pourquoi, être face à la caméra, même que j'arrivais à parler en public, être face à une caméra, ça me bloquait vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, après, vu que j'avais eu cette expérience où je me suis dit « Ah, en fait, j'ai pu apprendre à parler en public alors que ça me paraissait être une compétence qui ne s'apprenait pas, un truc inné », là, j'avais eu la preuve qu'en fait, non, on pouvait l'apprendre. Et donc, dès que je suis rentrée des États-Unis, je me suis dit « Je vais faire la même chose avec apprendre à parler à une caméra, vu que maintenant, je sais qu'on peut apprendre des trucs. » Et je me suis lancée un défi de faire une vidéo par semaine sur YouTube pendant un an. Pour être à l'aise, pareil, chaque semaine, je devais me mettre devant ma caméra, raconter des trucs. Alors, je prenais n'importe quoi comme sujet. L'idée, c'était vraiment de devenir à l'aise. Et donc, je l'ai travaillé comme ça, petit à petit. Et je pense que si on a peur de faire un truc ou s'il y a des compétences qu'on n'a pas encore ou qu'on aimerait acquérir, le meilleur moyen, en fait, c'est d'y aller, de sortir de sa zone de confort petit à petit. Alors, pas de sauter dans le grand bain, mais de sortir de sa zone de confort petit à petit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Ça aide à devenir beaucoup plus à l'aise.
Alors, il y a 1000 trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Première chose, par rapport au fait de... Tu dis, je ne pensais pas que ça s'apprenait, ces compétences. C'est vrai qu'on a cette vision un peu de... Ah non, moi, je suis pas à l'aise, les autres, ils sont à l'aise. Alors que non, c'est des compétences. Et là-dessus, il y a un livre qui est super. Il s'appelle « Mindset » de Carol Dweck. Je crois qu'en français, c'est « Oser vraiment réussir » et qui parle justement de ces deux états d'esprit, entre celui où l'état d'esprit figé, je crois, en français, où on part du principe qu'on a des qualités de base, puis qu'on ne peut pas les améliorer, puis l'état d'esprit de croissance, qui est un très bon exemple dans ce que tu as fait. L'autre chose que je trouve super intéressante, c'est en effet ce que tu soulignes par rapport aux Américains. Alors, il y a plein de choses qui font très mal, mais ça, c'est sûrement quelque chose qui font super bien. Et c'est dommage parce que chez nous, c'est quelque chose qui va de moins en moins avoir lieu, je crois. Il me semble que ça se discute au niveau des écoles, en tout cas dans le canton de Vaud, de supprimer de plus en plus les prises de parole en public pour ne pas discriminer les personnes qui seraient anxieuses ou qui n'arriveraient pas à gérer ça. Et je pense que c'est... C'est très dommage. Alors autant, c'est clair que si on a une anxiété maladive qui nous bouffe, ça, c'est clair que ça rend les choses compliquées. Par contre, le seul moyen de vaincre ça, c'est ce que tu as fait, c'est-à-dire d'être dans un environnement sécurisé, sécure en tout cas, où on ne se sent pas jugé et où on peut pratiquer ça encore et encore et encore. Donc ça, en plus, je crois que la personne responsable de l'éducation maintenant dans le canton de Vaud, c'est quelqu'un qui porte le même nom que moi. Alors, on n'est pas de la même famille, mais si tu nous entends, remets ça à l'ordre du jour.
Ne faites pas ça.
Alors, moi, je devrais prêcher peut-être pour ma paroisse parce que en tant que psy, je reçois dans mon cabinet les personnes justement qui ont de l'anxiété. Donc peut-être que pour une activité de psychologue, pour le business, c'est mieux d'avoir des gens qui sont anxieux. Mais je pense que les gens s'en sortiront mieux s'ils sont confrontés à ça, justement, dans un moment, dans un endroit où il n'y a pas de jugement et on est là pour pratiquer. Parce que si ce n'est pas à l'école, ça sera plus tard dans un boulot, puis où les conséquences seront pires.
Ça sera pire, ouais.
Et je trouve top aussi le côté de faire une vidéo YouTube pendant un an. Parce que là, c'est vraiment, du coup, tu as vraiment drillé ça. Et. Moi, ça résonne pas mal parce que mon père m'a souvent dit « Ah, mais tu devrais faire des cours de pose de voix pour apprendre à bien parler, etc. » Et puis, ça m'a jamais vraiment donné envie de le faire. Et puis, je m'étais un peu dit « je commençais à créer un peu du contenu. » Et puis, je me suis dit « ça va venir à force d'en faire. » J'essaie de faire attention aux tics de langage, aux « etc., à comment je parle. » Mais c'est vrai que à force de faire des vidéos, créer des podcasts, etc., eh bien, on a de plus en plus de facilité. Et puis en plus de ça, bon, on crée énormément de choses. Donc ça a d'autres avantages.
Ouais, carrément.
Dans d'autres interviews que j'ai entendues de toi, j'ai entendu que tu avais été souvent confronté à la question de la légitimité, que ce soit par rapport à ton âge, mais aussi par rapport à ton genre. Et puis, c'était des anecdotes assez touchantes, enfin, touchantes et assez choquantes aussi, ou surtout. Comment est-ce que ça s'est passé un peu pour toi? Comment tu as réagi à ça? Puis aussi, ben voilà, comment tu as réussi à faire face en fait à ça?
Ouais, c'est vrai que c'est revenu quelques fois. Surtout que bah, moi, j'ai lancé mon business, j'avais 22 ans. Donc, je pense qu'il y avait une vraie question de légitimité qui se posait aussi. Parce que j'étais beaucoup plus jeune que tous mes clients. Une partie était dans ma tête. Ça, je l'ai vu petit à petit, que des fois, moi, je ne me sentais pas légitime alors que la personne en face ne s'était pas posé du tout la question ou même me trouvait plus légitime puisque c'était dans le digital et que donc, j'étais née presque avec un téléphone et Internet, etc. Donc, je sais qu'il y a une partie, et je l'ai travaillée en mindset, il y a une partie qui était dans ma tête. Et une partie, alors surtout sur la légitimité dans le genre, une partie sexisme en fait, qui était là aussi, avec des anecdotes, ouais, pas forcément très, très chouettes, où on m'a dit ou fait sentir, ça dépend des fois, que les femmes ne devaient pas faire de business. Une fois, un client m'avait dit, ouais, les femmes doivent rester dans la cuisine et ne pas faire de business. Cette fois-là, je n'avais pas bien réagi. Je sais aujourd'hui que j'aurais voulu réagir différemment, mais en fait, ça te prend tellement de cours. En tout cas, moi, je n'étais pas prête du tout. J'avais 23, peut-être 24. Et quand la personne m'a dit ça, je n'ai pas bougé. J'ai rien dit et j'ai rien fait. Et j'étais figée. En fait, c'était vraiment la réponse du système nerveux où tu te figes et tu ne sais pas. Juste, tu ne fais rien parce que tu ne sais pas quoi dire.
Et en même temps, c'est tellement à côté de la plaque et choquant et inattendu en fait que bah, tu peux pas avoir une. Enfin, c'est difficile d'avoir une autre réaction que ça en fait. Que juste, c'est un peu une rupture de pattern en fait. T'es en train de parler vraiment, à quelqu'un qui est coach en business, qui est une femme. A priori, tu l'as vu, tu t'es au courant de ça. Et puis, tu viens lui dire que les femmes devraient rester à cuisine et pas faire de business. Donc, il y a tellement un décalage que c'est presque une technique hypnotique de te faire une remarque comme ça.
C'est vrai, ouais. Et une fois que tu réfléchis, tu vois, tu te dis, ben, j'aurais voulu faire comme dans les films. Tu te lèves, tu renverses la table et tu te casses, tu vois. Mais tu peux pas, comme tu dis, en fait, c'est tellement surprenant. Et donc j'ai appris à pas m'en vouloir au final. C'est comme ça, c'est tellement inattendu que tu peux pas réagir autrement. Et aujourd'hui en fait j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça aussi que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup travaillé mon branding, mon image de marque, pour que justement les clients avec qui je travaille, les clients que j'ai au téléphone, savent qui je suis, savent, ils m'ont déjà entendu sur le podcast plein de fois. Donc en fait, ça trie énormément. Et tous les clients qui pourraient questionner ma légitimité, peu importe de quelle direction finalement, ne viennent pas jusqu'à moi. Je ne les ai jamais au téléphone parce qu'ils auront entendu un épisode de podcast, ils se seront dit « Ah non, elle, je ne l'aime pas, je n'ai pas envie de lui parler ». Et donc ça trie en amont. Donc, je pense que c'est ça ma stratégie aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir énormément de contenu qui est sur Internet, qui est là, et pour trier en fait toutes les personnes qui ne sont pas mes clients idéaux et attirer toutes les personnes qui résonnent et qui ont envie de bosser avec moi et personne d'autre finalement.
Je suis pas sûr que tu aies eu une mauvaise réaction, enfin, ou que le fait de te mettre en colère, de renverser la table, ça aurait été mieux, tu vois, parce que. En fait, une personne comme ça, elle ne mérite pas de te toucher émotionnellement. C'est tellement aberrant que à part juste, à la limite, un rire, quoi. C'est presque tout ce qu'elle aurait mérité Mais ok. Mais en tout cas, bah, je trouve intéressant aussi, c'est une stratégie du coup de tri que tu n'as pas besoin de faire au téléphone. C'est l'avantage en effet du branding, c'est que bah, les gens, tu définis vraiment qui tu es. Et moi, j'ai le même effet au niveau psychologie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de par le podcast, les réseaux sociaux, etc. Ça trie énormément parce que les gens savent à quoi je ressemble, qu'est-ce que je pratique, etc. Je vois que l'heure tourne, mais j'avais juste encore envie que tu parles de ton livre, parce que tu as sorti, c'était en 2023, sauf erreur,
le livre « Exactement.
Ta vie de rêve ». Pour moi, écrire un livre, c'est vraiment dans l'inconscient collectif, c'est vraiment l'œuvre incroyable, etc. Ça m'intéresse, peut-être bah, que tu parles un petit peu déjà de qui ça pourrait intéresser, ce bouquin, mm-hmm. et puis aussi de comment, quel a été ton processus créatif.
Ouais. Alors le livre, c'est vraiment, je l'ai conçu en amont en fait de mes accompagnements parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes que je ne pouvais simplement pas accompagner encore parce qu'elles n'avaient pas défini leur projet, parce qu'elles n'avaient pas assez travaillé sur qui elles étaient, ce qu'elles avaient envie de vivre. Donc moi, je ne peux pas proposer un coaching business sur qu'est-ce que tu vas monter comme entreprise quand tu ne sais pas si tu as envie de devenir entrepreneur. Donc c'est vraiment en amont, et ça marche aussi bien pour les entrepreneurs ou les gens qui sont salariés mais qui veulent peut-être se construire une meilleure routine ou un meilleur style de vie ou se poser des questions. Et l'idée, c'est vraiment d'amener les gens à travers un processus pour designer leur vie idéale, donc réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre, faire une pause et réfléchir un instant à bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre tous les jours, qui j'ai envie de devenir, quel style de vie, et potentiellement monter un business. Mais je ne parle pas du tout de création de business dans le livre, et c'est vraiment la partie avant, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme vie? Donc ça, c'est le sujet du livre. Moi, j'ai toujours voulu écrire un livre. Depuis que je sais lire, je crois, j'avais envie d'écrire un livre. Et c'est vraiment un projet, je savais que j'allais le faire un jour. Je pensais plutôt que j'allais le faire à 70 ou 80 ans, parce que bah, comme toi, c'est un projet où tu te dis, mais c'est le projet d'une vie, enfin, c'est un truc de fou, c'est tellement abstrait, tu ne sais même pas par où commencer. Enfin, ça me paraissait vraiment un truc... Et même, je me disais, ben, encore une fois, la légitimité, qu'est-ce que j'aurais compris avant d'avoir 80 ans, tu vois, peut-être que j'aurais pas compris la vie, donc j'aurais rien à dire. Enfin, vraiment, je le voyais comme un projet pour beaucoup plus tard. Et par hasard, en fait, je crois que c'était à Paris, j'ai rencontré une fille qui a écrit un livre, et elle a écrit à 16 ans. Et c'est là où je me suis dit, oups, en fait, j'en avais 26 ou 27. Et je me suis dit, ben, j'ai déjà perdu 10 ans, en fait. J'aurais pu écrire mon livre il y a 10 ans. Pourquoi j'ai attendu? Et là, j'ai eu la réflexion inverse, de me dire, ben, c'est dommage, j'ai déjà perdu plein d'années de ma vie où j'aurais pu écrire un livre avant parce que je savais que j'avais envie de le faire. Et c'est à ce moment-là où très, très vite, je me suis dit, ben, let's go. J'avais mon business qui tournait à peu près. Je pouvais me permettre de prendre une année aussi où j'allais être moins sur les coachings, moins sur le business, parce que ben, ça prend du temps d'écrire un livre et tout ça. Et vraiment, je me suis dit, bah, j'y vais. Je sais que j'ai envie de faire ça. J'ai fait assez de séminaires, de coaching, de choses sur ce thème-là pour avoir déjà testé les idées, la structure, les histoires, tout ce que j'avais envie de dire. Donc, ce n'était pas très, très compliqué de créer ce processus qui, en fait, existait déjà dans ma tête et surtout tous mes contenus. Et il suffisait que je le pose vraiment sous forme de livre et que je le rédige finalement, parce que j'avais déjà tout créé, le processus était là. Donc, j'ai commencé par écrire la structure. Ça m'a pris quelques semaines. Après, ben, y a eu le premier jet où là, vraiment, je me suis motivée à fond. Je l'ai fait assez rapidement parce que je savais qu'avec le business, je n'avais pas beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, ben, j'y vais avec 1000 mots par jour. Et j'ai écrit 1000 mots par jour pendant 40 jours pour avoir 40 000 mots à la fin, ce qui fait à peu près 300 pages, un peu moins. Et après, ça s'enchaîne avec deuxième brouillon, la relecture, etc. Il y a plein de travail sur la couverture, la mise en page. Enfin, c'est un gros truc. Hein. Je veux pas faire semblant. Ça m'a pris quand même 9 mois du début à la fin et quand même pas mal d'heures par jour. Mais je suis super contente de l'avoir fait et de ne pas avoir attendu bêtement, finalement, plus d'années.
Et c'est toi qui as géré aussi le côté, parce que je t'avais vu quand tu faisais des sondages par rapport à la couverture, au titre, etc. C'est toi qui as géré aussi toute la partie design, mise en page, etc. Ou tu t'es fait aider?
Alors, j'hésitais un moment à demander à une maison d'édition de m'accompagner. Puis après, je me suis dit, mais en fait, moi, mon métier de base, c'est le design et la création. Donc, je sais mettre en page des choses. Je sais créer des couvertures. Donc, tout ça, je l'ai fait moi-même. Mais je me suis fait accompagner, par contre, pour la relecture. Tout ce qui est faute d'orthographe, tournure de phrases bizarres et tout ça. Là, j'ai eu une correctrice qui a fait un boulot de fou, elle m'avait envoyé, il y avait 3200 corrections, je crois, sur le manuscrit. Donc, je me suis fait accompagner sur certaines parties quand même, oui.
Et du coup, tu l'as auto-édité? Comment tu as fait ça?
Ouais, je l'ai auto-édité. Donc, il y a deux manières de sortir un livre. Soit tu fais en maison d'édition. Là, ils font pour toi, donc toi, t'écris et ils font pour toi la mise en page, la couverture, etc. Par contre, tu gagnes un pourcentage du livre beaucoup plus faible. Ou alors, tu peux l'auto-éditer. Et aujourd'hui, il y a des principes, enfin, des techniques d'auto-édition où tu peux être en librairie. C'est le cas de mon livre. Donc, mon livre est en librairie comme n'importe quel autre livre, même s'il est auto-édité. Simplement, tu dois faire tout le travail toi-même de mise en page, de couverture, ou alors engager toi-même ton équipe.
Ok. Bah, écoute, je mettrai à nouveau le lien dans les notes du podcast ou YouTube pour les gens qui regarderont ça sous forme vidéo. Mais ben, je ne peux que leur recommander de le commander parce que justement, je pense que c'est intéressant de pouvoir dégrossir en fait, plein de réflexions avant de se lancer soit dans un coaching, soit directement dans une activité indépendante. Donc, ce que je trouve intéressant avec les méthodologies que tu as, c'est que justement, ça peut servir pour du business, mais aussi pour d'autres décisions de vie. Je trouve ça vachement intéressant. Trop avant bien. Qu'on termine, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024 ?
Qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour 2024 ? De pouvoir toucher encore plus de femmes qui ont envie de devenir entrepreneurs. Je pense via mon contenu, via mon programme qui va bientôt sortir, via les coachings. J'ai vraiment, vraiment envie de pouvoir atteindre de plus en plus de femmes et aider vraiment les gens à créer leur vie de rêve, en fait. C'est juste ça, de pouvoir leur montrer qu'on peut vivre plus, qu'on peut vivre des choses qui nous plaisent vraiment, qu'on peut se créer notre propre vie et qu'on n'est pas obligé de vivre par défaut forcément.
Bah écoute, je te le souhaite. Et sur ce podcast, il y a environ 80% de femmes qui écoutent, donc je ne doute pas que ça parlera à certaines d'entre elles. En tout cas, merci beaucoup Fanny. Et puis,
merci à toi.
À très bientôt. Je dirais, comme je l'ai dit, toutes tes infos de Instagram, site, livre, podcast, il y aura un sacré pavé à mettre, mais toutes les infos seront là. Donc pour les gens qui ont apprécié cet épisode et pour qui le style de Fanny a résonné, ben vous retrouverez tout ça là-dedans. Puis ben moi je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.